Bonjour à toutes, bonjour à tous, et bienvenue sur cette chronique Qui c'est qui commande? Un podcast produit par Un Petit Papour qui s'adresse à celles et ceux qui n'ont pas le temps de s'occuper de leur vie intérieure. Je suis Frédérique Petit, femme d'entreprise, formatrice et psychanalyste symbolique. J'accompagne depuis 10 ans la vie intérieure de personnes aux commandes de projets, d'équipes, d'entreprises ou tout simplement qui essaient d'être aux commandes du quotidien. Dans ce podcast, je vous emmène à la rencontre de Georges, personnage de fiction inspiré du réel, dont le cheminement intérieur est le fil rouge de plusieurs épisodes. Toute ressemblance avec des personnes existant ou ayant existé serait purement fortuite. Mais vous pourriez vous reconnaître. Aujourd'hui, 5e épisode, nous retrouvons Georges à son retour de vacances, dans un virage intérieur qui commence à s'entendre. Le week-end touchait à sa fin. Le dimanche soir était le moment de ma reconnexion au rendez-vous de la semaine à venir. Et comme d'habitude, je parcourais mon agenda. Le rendez-vous programmé avec Georges en milieu de semaine accrocha mon regard. La dernière séance remontait à plus d'un mois. Georges avait eu besoin de faire un break et s'était accordé 10 jours de vraies vacances. J'avais beaucoup pensé à lui depuis la dernière séance, me demandant comment l'entretien avec Rodolphe s'était passé. Avait-il su trouver les mots justes? Georges avait-il réussi à exprimer sa vulnérabilité? Je me surprenais à être impatiente d'en débriefer avec lui. Intriguée, je m'installais en tailleur dans mon siège et laissais mon regard se perdre dans les collines au loin pour creuser intérieurement la justesse de ma posture professionnelle avec cet homme-là. Que se passait-il pour moi dans la relation avec Georges, qui générait de ma part un engagement particulier? Cette impatience était-elle la manifestation normale de mon intérêt professionnel pour son cheminement? Ou bien ma conscience professionnelle était-elle mélangée avec des éléments surgissant de ma propre histoire? Que représentait Georges pour moi, Frédéric? Étais-je ou pas intérieurement embarqué dans quelque chose dont je me méfiais beaucoup, vouloir pour l'autre. La volée de questions qui avait surgi en quelques minutes d'introspection m'indiqua qu'il était nécessaire que j'aille poser la situation avec un confrère qui m'aiderait à relire ma pratique avec Georges et à débusquer les éventuels contre-transferts. Mercredi, 17 h. Georges venait de me rejoindre dans mon bureau et je m'enquérais. Alors, Georges, comment ça s'est passé avec Rodolphe? Comment ça s'est passé? Dit Georges. C'était un moment hors norme, totalement différent de ce que j'avais imaginé. J'avais proposé à Rodolphe, vous savez, de me rejoindre sur le chantier pour en faire le tour avant le rendez-vous client. On était tous les deux bien focus sur le dossier. Oh, ça nous a fait une bonne diversion, on n'était pas obligé de se regarder. Puis au bistrot, bon, on nous avait demandé, on nous avait donné une table un peu à l'écart, vous savez, je l'avais demandé. Bon, je suis incapable aujourd'hui de vous dire ce que j'ai mangé. Parce qu'avec Rodolphe, on parlait des détails du chantier de façon très pro, un peu froide. Extérieurement, j'étais calme. Mais intérieurement, Frédéric, c'était un tsunami. Je guettais le moment où j'allais devoir dire: Rodolphe, il faut qu'on parle. J'en avais des sueurs. Mille fois j'ai failli renoncer, mais j'entendais votre voix me dire: Allez, Georges, au travail! J'éclatais de rire. Georges avait visiblement décidé de mettre en scène son échange avec Rodolphe, et je voyais apparaître sous mes yeux un homme différent, plus spontané, drôle et capable d'autodérision. Rien à voir avec l'homme raide et bourru des dernières semaines. Je soulignais: Vous avez donc contacté le point de bascule intérieur. Vous savez, ce moment charnière où on a la possibilité de passer du personnage professionnel, Georges le DG, à l'homme vrai, celui qui parle avec simplicité et sensibilité dans un cadre professionnel. C'est parfait. Et alors? Georges me taquina, l'œil lumineux. Ah ah! Vous voulez connaître la suite? Bah oui, Georges, évidemment! Intérieurement, j'ai été embarrassée d'être prise en flagrant délit de curiosité. Georges mettait évidemment pile le doigt dessus. Grand classique de la communauté d'âmes entre accompagnants et accompagnés. Mais Georges me rassura. Ça tombe bien, Frédéric, j'ai vraiment envie de vous raconter. Sophia, mon épouse, ne m'écoute plus, elle est saturée d'entendre mes histoires de boulot. J'ai eu le malheur de dire un mot sur Rodolphe pendant les vacances, elle m'a menacé de faire sa valise. Donc, mon rendez-vous avec Rodolphe. Eh bien, une fois qu'on était à table, je me suis jetée à l'eau. À un moment donné, j'ai partagé à Rodolphe que j'étais triste de ce repas qu'on était en train de vivre. Vous savez, c'est un bistrot où on a nos habitudes, on est venu souvent depuis 2 ans après les réunions de chantier. Et c'était généralement un moment de décompression, on se marrait bien. En comparaison, ce repas-ci était sinistre. Donc j'ai commencé comme ça, en soulignant le contraste entre hier et aujourd'hui. Ma nostalgie des bons moments partagés. Et la suite s'est enchaînée. J'avais l'impression qu'un barrage sautait. J'ai pu parler de mon regret de le voir partir, lui dire tout le bien que je pensais de lui, en m'excusant de ne pas avoir su lui dire plus vite. J'ai bien vu qu'il avait les yeux qui brillaient. Il s'est excusé d'avoir été brutal et m'a dit qu'il ne savait pas comment m'annoncer son départ, que ça faisait des mois qu'il se sentait tiraillé, déloyal, car il avait vraiment l'impression de quitter le champ de bataille en plein combat. Il n'en pouvait plus de cette culpabilité. Il m'a dit qu'il n'avait jamais réussi à me parler vraiment, qu'il avait eu peur de me blesser, mais aussi peur que je le fasse changer d'avis. Alors il s'est arrangé pour couper brutalement, pour pouvoir partir sans se retourner. Georges s'interrompit un instant et poursuivit. À ce moment-là, Frédéric, il m'a dit un truc qui m'a beaucoup percuté. Il m'a dit « Tu sais, Georges, ce n'est pas contre toi que je pars, c'est pour moi. » Je louais silencieusement ce Rodolphe qui renvoyait à Georges exactement ce qu'il avait besoin d'apprendre. Georges poursuivit sur sa lancée. Et cette phrase, Frédéric, a ouvert la deuxième partie de notre discussion, car j'ai demandé à Rodolphe de m'expliquer vraiment pourquoi il quittait sa vie ici, l'entreprise, ses racines familiales. Parce que chercher à avoir un pied-à-terre dans une autre région, je comprends. Mais tout plaquer comme ça, ça rentre pas dans mon programme. Et là, j'ai découvert un autre Rodolphe que je ne connaissais pas. J'avais l'image d'un bon vivant, la caricature du directeur commercial chaleureux, prompt à dégainer le champagne quand une affaire est signée. J'ai découvert un homme profondément préoccupé par le devenir de la vie sur Terre. Je ne le savais pas. Bon, je ne veux pas connaître la vie personnelle de mes collaborateurs. Je ne savais pas, mais il semble avoir eu une enfance un peu compliquée. Il a été élevé par son grand-père jusqu'à l'âge de 12 ans, si j'ai bien compris. Puis il a atterri en ville, en internat. Et la mémoire occultée de cette première phase de vie à la campagne, aux côtés d'un grand-père attentif, bricoleur, qui parlait aux arbres et connaissait le nom de chaque fleur, tout ça, ça lui a sauté au visage au moment du confinement en 2020. Sa compagne Laura était partie s'isoler sur ses terres bretonnes, il l'a rejointe. Là-bas, il a rencontré d'autres façons de vivre et de penser l'avenir, auprès de personnes loin de son univers habituel. Il m'a confirmé avoir utilisé ce temps libéré pour échanger, lire, réfléchir, s'informer et digérer les conséquences du réchauffement climatique. Avec les amis de Laura, ils se sont beaucoup interrogés sur leur rôle, leurs responsabilités et leur impact personnel. Entre nous, Frédéric, j'ai bien l'impression que pas grand monde ne respectait la distanciation physique. Mais c'est allé loin, vous savez. Rodolphe m'a parlé du futur. Une vision de l'avenir tellement sombre qu'il n'envisage plus de fonder une famille. J'ai compris que ces semaines et week-ends officiellement destinés à rénover la vieille ferme familiale de Laura ont aussi beaucoup modifié leur projet de vie. Alors, à vous, je peux bien le dire, Frédéric, il y a un Georges en moi, et je ne sais pas lequel, hein, qui a eu furieusement envie de lui dire que tout ça, ça lui avait retourné le cerveau. Mais je me suis tue, bien sûr, et j'ai vraiment essayé de voir la vie avec ses yeux à lui. C'est pas facile, parce que lui-même admet qu'il est comme coupé en deux. Il est tantôt animé d'un sentiment d'urgence qui pourrait le rendre hyperactif, à vouloir alerter tout le monde, rejoindre des collectifs, à se préparer à tenir un siège en faisant des réserves. Il m'a quand même dit qu'ils avaient passé 2 semaines l'été dernier à remplir leurs caves de conserves et de bocaux. Puis le jour d'après, il est saisi d'une lassitude telle qu'il jette l'éponge et se contente de vivre au jour le jour, sans objectif précis, sans projet autre que de passer la journée en gérant les affaires courantes. Je vous le disais, Frédéric, c'est un autre homme que je découvre, et tout un système de pensée qui m'est étranger, avec des côtés séduisants, mais d'autres qui me laissent franchement perplexe. Les sociologues doivent s'éclater en ce moment. Les psys aussi, d'ailleurs. J'ai d'abord pensé qu'il faisait une dépression, mais vous savez ce qui est bizarre, c'est qu'il n'a pas l'air si paumé que ça. C'est juste qu'il a arrêté de cultiver des certitudes et de faire des plans sur la comète. Bref, en synthèse, il m'a redit que le fossé n'avait fait que de s'accroître au fil des mois, entre ses week-ends en pleine nature, dans le silence ou la chaleur simple des relations de village, à un rythme plus lent, et la vie en métropole, coincée entre les visios et les bouchons, a peaufiné jusque pas d'heure des slides que pas grand monde ne lirait. Il faut quand même que je creuse cette histoire de slides, ça fait 2 fois qu'il m'en parle. Bon, et à tout ceci s'est ajoutée une profonde fracture avec son collègue Stéphane, dont là j'avais clairement sous-estimé l'impact. Je demandais, qui est Stéphane? Stéphane, c'est notre directeur technique. Il est accro aux innovations, fasciné par les technos, l'intelligence artificielle, les réseaux, les robots, la vie sur Mars, etc. Je savais bien que ces deux-là s'écharpaient de temps en temps, mais j'avais mis ça sur le compte d'une rivalité entre eux. En fait, c'est bien plus profond. Il y a une différence de vision de la vie et de l'avenir conséquente, qui se répercute sur leur vision du développement de l'entreprise. Quand j'écoute Rodolphe, je découvre qu'il est habité de tout un univers assez disparate, balbutiant, expérimental, émergent, fait d'initiatives low-tech, de réemploi, de recherche d'autonomie énergétique, d'entraide locale, de respect de la vie, de sobriété choisie. Et pour Stéphane, semble-t-il, ce modèle est ridicule, naïf, régressif, has-been, et il ne s'est pas privé de le dire à Rodolphe. Leur dernière altercation s'est quand même conclue par un « bonne chance dans ta cambrousse sans toubib ». Il faut bien le dire, c'est un peu méprisant. Depuis, ils ne se parlent plus. Pour moi, j'avoue que c'est bien difficile d'avoir une vision claire, mais j'aurais aimé que ce débat-là ait lieu au sein du CODIR. Du coup, en plus d'avoir un sujet stratégique majeur à adresser, quel angle doit-on donner à la bifurcation du modèle de l'entreprise? Je me retrouve avec un vrai problème d'homme à gérer. Il est invraisemblable pour moi que de tels comportements aient lieu au sein de mon équipe de direction. Voilà, Frédéric, je crois que j'ai fait le tour. Je remerciais Georges de son débrief. Eh bien, quel voyage dans le monde de l'autre! Et pour un coup d'essai, bravo! Vous avez du premier coup expérimenté une loi sacrée de la relation. Si je veux que l'autre parle, il faut que je me taise. Ne riez pas, Georges. Ça s'apprend d'écouter l'autre en se décentrant de soi. Observez donc le comportement relationnel des personnes autour de vous. C'est à celui qui interviendra le premier pour placer ses idées, pour être visible, par peur du vide, pour emporter le morceau, que sais-je. Le contexte professionnel ordinaire exacerbe ces comportements. Et je remarque que les plus extravertis sont souvent valorisés. C'est vrai qu'ils apportent beaucoup à un collectif, de la vitalité, des idées, des intuitions, du rythme, mais ils manquent parfois de la finesse d'écoute et de la prise de recul qui enrichissent les décisions. Donc, souvenez-vous, 2 ans pour apprendre à parler, une vie pour apprendre à se taire. Georges répliqua. Ben, Frédéric, je vous signale que la fois dernière, vous me faisiez l'éloge de la parole. Alors, il faudrait savoir, il faut parler ou il faut se taire? Georges, décidément d'humeur joyeuse, me regardait avec malice. Quant à moi, j'étais habité par l'histoire de Rodolphe, frappé une fois de plus par l'entrelacs subtil des événements avec la destinée des individus. Le téléphone de Georges sonna. C'est Alessandro. Vous m'excusez, Frédéric, je prends l'appel. Je laissai Georges répondre à son fils, questionnant intérieurement la synchronicité possiblement à l'œuvre. Georges raccrocha. Bon, ben Frédéric, je crois que je vais rapidement avoir l'occasion de vérifier s'il faut parler ou se taire. Alessandro m'a donné rendez-vous pour demain soir. Il veut me parler. Il m'a donné l'adresse d'un lieu avec un drôle de nom. La Bifurque. Vous connaissez? Cet épisode 5 a été l'occasion d'introduire la question de la supervision de l'accompagnant. La supervision, c'est le temps qu'un accompagnant prend pour partager sa pratique avec un tiers, un père ou un enseignant, et qui vient en plus de son propre travail intérieur. Il faut comprendre que le premier instrument de travail d'un accompagnant, c'est lui-même. Avec la pratique se développe une sensibilité, une intuition, quelques repères dont il faut d'ailleurs se méfier, pour ne pas qu'il nous coupe de la réalité toujours mystérieuse de l'autre face à soi, au risque de l'enfermer dans ce que l'on croit avoir compris de lui. L'accompagnement de l'autre peut prendre des formes diverses, allant de la transmission au compagnonnage en passant par la relation d'aide. Mais celui qui accompagne ne sait rien de l'autre et ne veut rien pour l'autre, qui reste indéfectiblement libre et responsable de son chemin. Dans cet épisode, nous avons également entendu le plaisir manifeste que Georges prenait à raconter son apprentissage de la relation vraie. Cette nouvelle posture d'ouverture à l'autre lui donne un accès à la multitude de réalités insoupçonnables auparavant. L'autre est une école, nous l'avions déjà partagé dans l'épisode 3 « Miroir, miroir ». L'autre est aussi un voyage en terre inconnue. Encore faut-il adopter l'approche humble de l'explorateur et non celle du colon bouffi de certitude. À ce propos, Carl Gustav Jung écrit ceci. Apprenez vos théories aussi bien que vous le pouvez, puis mettez-les de côté quand vous entrez en contact avec le miracle vivant de l'âme humaine. Et de votre côté, dans l'un ou l'autre des rôles que vous tenez, sans être forcément un professionnel de l'accompagnement, êtes-vous plus au clair sur ce qui vous anime dans la relation? Depuis ces dernières semaines, avez-vous modifié votre posture relationnelle? Avez-vous essayé au moins une fois de parler vrai en éprouvant votre vulnérabilité? Non? Ça résiste? Alors il est vraiment essentiel que je vous repose la question. Si vous regardez attentivement, qui c'est qui commande dans votre vie? Je vous remercie pour votre écoute. Vous pouvez réécouter ce podcast Qui c'est qui commande autant de fois que vous le voulez et suivre les aventures intérieures de Georges dans le prochain épisode, épisode dans lequel Georges sera invité à questionner son rapport à l'autorité. Merci de partager ce podcast si vous pensez qu'il peut être un repère utile pour d'autres personnes. À bientôt !